enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Par vision, ça veut dire mission. C'est notre but, notre appel ou notre mandat. Quand nous parlons de la volonté de Dieu ou la vision de Dieu pour l'Église, nous parlons de la vision de Dieu pour vous. C'est pour ça que je demande si vous êtes prêts à recevoir la vision pour l'Église, parce que c'est pour vous, c'est pour nous. Nous sommes l'Église. On ne peut pas détacher les gens de l'Église. Des fois, j'entends des gens parler comme si l'Église est une entité à part des gens, comme l'Église est une entité distincte avec une personnalité en elle-même qui est un peu détachée ou séparée des gens, comme si une Église peut posséder une personnalité à part des membres de l'Église. Les gens vont dire, mais ça, c'est une Église traditionnelle, comme si c'est l'Église qui est traditionnelle et pas les gens dans l'Église. Ça, c'est une Église légaliste, comme si c'est l'Église, la personnalité de l'Église même. Mais nous savons que l'Église, c'est une Église légaliste, mais c'est parce que les gens à l'intérieur de l'Église sont légalistes, parce qu'on ne peut pas détacher l'Église des gens dans l'Église. Qu'est-ce qui fait une Église plate? C'est des gens plates. Ou une Église traditionnelle, ou froide, ou morte. Mais c'est les membres de l'Église. Ça ne peut pas être l'Église elle-même sans les gens de l'Église. C'est la même chose pour une Église dynamique ou une Église animée ou une Église active. Ça veut dire que c'est les gens qui sont dynamiques, actifs ou qui sont animés. Moi, je dis toujours à ceux qui trouvent l'Église plate que ce n'est pas Dieu qui est plate, c'est eux qui sont plates. Parce que Dieu est excitant. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Car ce qui fait une église n'est pas le béton et des briques. Qu'est-ce qui fait une église n'est pas le nom sur l'édifice. Qu'est-ce qui fait une église n'est pas une charte légale qui nous nomme l'église selon Québec ou Canada. Ce qui fait l'église, c'est les gens. C'est l'humanité à l'intérieur de l'église. C'est vous et moi. Nous sommes l'église. Alors, la vision de l'Église évangélique de la Rive-Nord pour 2007, c'est la vision pour vous, pour nous. Nous sommes l'Église. On ne peut pas se séparer de cette Église. Alors, quand je parle de la vision, c'est pour vous. Quand je parle de la volonté de Dieu pour l'Église évangélique de la Rive-Nord, je parle de la volonté de Dieu pour vous. Combien aimeraient savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour leur vie? Levez votre main. Hein? Vous voulez savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Malheureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu pour vous. Ça va? Est-ce qu'on termine avec un mot de prière? Je m'explique. Je ne connais pas la volonté de Dieu pour vous en détail. Où, qui, comment, quoi, quand. Je ne sais pas les détails de la volonté de Dieu pour vous. Je les connais presque même pas pour moi. Alors, moins pour vous. Comment vous dire c'est quoi les détails de la volonté de Dieu pour vous? Je ne le sais pas. Mais c'est correct. Dieu nous donne sa volonté en général dans la parole de Dieu et les détails, il les laisse à nous-mêmes. Comme qu'on dit souvent, Dieu est votre père, pas votre mère. Alors, il donne sa volonté en général, mais les détails, hein? Il est notre Père. Alors, je ne connais pas les détails de la volonté de Dieu pour vous, mais les détails, c'est pour ça que Dieu nous a donné un cerveau et des conseillers. Nous avons un cerveau pour régler quelques détails de notre vie, et nous avons aussi des conseillers. La Bible nous enseigne qu'il y a la sagesse dans une multitude de conseillers. La raison pour ça, c'est parce qu'on a besoin de notre cerveau, puis on a besoin de nos conseillers pour des fois réfléchir la volonté de Dieu et pour prendre nos propres décisions. Alors, la volonté de Dieu en détail pour votre vie, je ne le connais pas, mais il y a une chose qui est certaine par rapport à la volonté de Dieu. Il y a une chose certaine que Dieu désire pour vous, pour moi, pour l'Église, pour votre ministère, pour mon ministère. Il y a une chose de laquelle je suis convaincu ce matin. Peu importe votre nom, peu importe votre arrière-plan, peu importe votre adresse, peu importe votre ministère, peu importe votre âge, peu importe les années de vie chrétienne, que ça soit 20 ans que vous êtes dans l'Église ou que ça soit 20 jours que vous êtes dans l'Église, il y a une chose dont je suis certain. C'est pour cela que je peux vous annoncer la vision ou la volonté de Dieu pour l'Église évangélique de la Rive-Nord avec assurance et confiance ce matin. Car ce n'est pas une vision qui arrive de Pasteur Marc Lecomte. Qu'est-ce que je vous partage? Ce n'est pas mon idée pour vous. Ce n'est pas une révélation nouvelle que j'ai reçue du ciel. Ce n'est pas un rêve que j'ai reçu dans la nuit. Ce n'est pas mon désir. Ce n'est pas mon plan pour l'Église, mais celui de Dieu. Ce que je vous partage, ça vient de Dieu. Vous allez dire, mais comment tu peux savoir ça, Pasteur Marc? Être si certain de cela? Simple. Parce que ça vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une vision conçue dans le cœur de Pasteur Marc, c'est une vision révélée dans la parole de Dieu. Je ne veux pas vous décevoir ce matin, mais je n'ai pas une grande révélation du ciel pour l'Église évangélique de la Rive-Nord. Mais ce que j'ai, c'est une révélation biblique pour vous, pour moi et pour l'Église. C'est dans la parole de Dieu. Je ne connais pas la volonté de Dieu pour l'Église évangélique de la Rive-Nord, mais je sais qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous donne la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Moi, je sais qu'est-ce qui est écrit et moi, je me fie sur qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Un peu mieux. La vision pour l'Église évangélique de la Rive-Nord pour l'an 2016, ça se décrit par un mot. J'aime garder les choses simples, comme ça, on n'a pas d'excuses. Personne ne peut dire, mais j'ai pas compris la vision. Alors, on va garder ça simple, ça va être un mot. La vision pour l'Église évangélique de la Rive-Nord pour cette année et pour chaque année par la suite et pour le reste de nos jours, jusqu'à temps que Jésus revienne, c'est la croissance. La croissance. Ça, c'est la vision et la volonté de Dieu pour nous, pour l'Église évangélique de la Rive-Nord. Original, n'est-ce pas? Appelez-le ce que vous voulez. Croissance, augmentation, amélioration, expansion. Ça, c'est la vision de Dieu pour nous. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas surpris. Car ils disent, oui, mais Pasteur Marc est en expansion depuis des années. Mais c'est vrai. Mais je ne parle pas de ce genre de croissance. Mais anyway, tout ça va changer. J'ai pris une résolution. Je suis au régime depuis le 1er janvier. Vous l'avez pas remarqué? Ça fait 6 jours. Crois-moi, rendu décembre, vous allez me supplier de manger. Mais ce n'est pas ce genre d'expansion ou de croissance que je parle, non physique, mais plutôt spirituel et numérique. Moi, je propose que la résolution de l'Église évangélique de la Rive-Nord pour 2007 soit une résolution de croissance spirituelle numérique. Nous sommes résolus à connaître la croissance en 2007, personnelle et corporelle, en tant qu'individu et en tant qu'Église. Et nous allons tout faire ce qui est nécessaire pour rendre la croissance non rien qu'une résolution, mais une réalité. Tout ce que nous allons faire, les décisions que nous allons prendre vont être prises à la lumière de Subu, la croissance. Ceci est notre force motivatrice, c'est la baromètre pour nos actions et nos décisions, c'est notre fixation et notre obsession, c'est la croissance. Notre but premier n'est jamais de préserver la tradition ni de revivre le passé. Nous ne sommes pas un musée, on est une église. Nous voulons respecter l'histoire, mais on ne veut pas revivre l'histoire. Ce n'est pas le passé qui nous intéresse, c'est l'avenir qui nous intéresse. Et l'avenir de l'Église évangélique de la Rive-Nord est un avenir de croissance. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Nous ne sommes pas intéressés à vivre la vie tranquille. Nous ne sommes pas non plus intéressés à la stabilité. Je l'avais dit à la réunion d'affaires. J'ai dit, oui, nous voulons la stabilité, mais pas trop. Parce que parfois, stabilité égale stagnant. Et stagnant n'est jamais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous est que notre vie soit marquée par une progression, une évolution, une amélioration, une croissance continue. De cela, je suis certain, c'est catégorique. Pourquoi? Parce que la Bible nous l'enseigne. D'une façon claire et précise, on voit ce principe en action dans la vie et le ministère de Jésus, et on le voit ce principe en action dans la vie de l'Église. C'est pour ça que nous allons prendre le temps de regarder ensemble Jésus et l'Église. Et nous allons fixer nos regards sur deux livres dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc et le livre des Actes, les Actes des Apôtres, deux livres qui sont écrits par la même personne, Dr. Luc. Il a écrit une histoire sur la vie de Jésus, et par la suite, c'est lui qui nous donne l'histoire de la première Église. Et avec ces deux livres, je vais lancer la vision de l'Église évangélique de la Rive-Nord et nous allons continuer feu et à la mesure et pendant toute l'année. Parce que combien sait qu'une vision ne se donne pas dans un message? Ça ne se donne pas dans un matin. C'est quelque chose qui va continuer, la vision, la croissance, basée sur l'Évangile de Luc et le livre des Actes. Et en regardant ces deux livres, on découvre une théologie. Une théologie que j'aimerais vous proposer comme résolution. On peut mettre... Est-ce qu'on fait le change de PowerPoint à mon visage de temps en temps ou non? Vous voulez pas voir mon visage, c'est ça? Parce que ça va arriver au verset dans quelques instants, mais pas tout de suite. Je vais vous lancer les versets quand on arrive au verset. Je ne sais pas pour vous tourmenter, mais il y a quelques personnes en arrière qui aiment voir l'écran. En regardant Luc et Actes, on va découvrir une théologie. Une théologie que j'aimerais vous proposer comme une résolution afin que vous la possédiez pour votre vie comme une théologie personnelle. Il y en a qui vont dire, mais c'est quoi ça une théologie, Pasteur Marc? Qu'est-ce que tu dis par ça? Une théologie personnelle. Une théologie personnelle, c'est une croyance fondamentale pour votre vie. C'est une valeur intégrale, une conviction profonde. C'est quelque chose que vous croyez dans le fond de votre être, dans vos tripes. C'est une façon de penser qui va diriger et influencer vos décisions et vos actions. Ça va être un peu comme un vent qui vous porte sous vos ailes. C'est une théologie pour votre vie, pour votre ministère en tant que leader, et c'est une théologie pour l'Église. C'est la théologie de la croissance. C'est quelque chose qu'on croit profondément, qui est biblique, et le désir et la volonté de Dieu pour tous et chacun de nous. Et moi, j'aimerais vous démontrer, prouver même, que Luc essaie et cherche à nous enseigner d'une façon systématique et évidente que la vie chrétienne est une vie de croissance et d'impact, et rien de moins. Il est essentiel, en tant que chrétien, il est essentiel qu'on comprenne cela, parce qu'on devrait tous avoir la conviction profonde, inébranlable, que Dieu nous appelle à une vie distinguée par la croissance et l'impact. Le désir de Dieu pour vous, pour moi, pour notre vie, notre ministère, pour l'Église en général, est la croissance. Ça peut être graduel, ça peut être explosive, mais c'est la croissance ni à moins. De ne pas croître n'est pas une option. Qu'une église plafonne est jamais l'intention de Dieu. Qu'une vie spirituelle plafonne est jamais l'intention de Dieu. Ni pour l'église, ni pour une vie. De demeurer statu quo, plafonner, demeurer aux mêmes endroits, au même niveau, n'est pas une possibilité. De tout simplement maintenir ou entretenir ma vie ou mon ministère ou l'église n'est pas acceptable. Ce n'est pas une considération viable, pas selon Dieu, pas selon Dr. Luc, pas selon moi, le Seigneur nous appelle tous et chacun à une vie de croissance. Et c'est pour cette raison que tout ce que nous faisons en l'an 2007 à l'Église évangélique de la Rive-Nord, la prière, la planification, la préparation, l'organisation, les activités, les déjeuners, la formation, tout ce qu'on vous propose et vous offre est fait dans le but d'expérimenter la croissance, afin de se préparer pour la croissance d'Église et la croissance personnelle. La façon qu'on dirige et la façon qu'on va dépenser l'argent va être toujours à la lumière de la croissance. Votre croissance et la croissance de l'Église. Parce que selon Luc, la croissance est normale, même inévitable pour une vie et une église vivante, une église qui est en santé. C'est normal qu'ils vont avoir la croissance quand nous sommes en santé. Il faut le croire et il faut l'attendre. Expect it. Il faut l'attendre, la croissance. Il faut le croire. C'est le désir de Dieu. C'est normal et inévitable pour moi et pour mon Église. Expect it, comme on dit en anglais. Attends la croissance. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Combien sont avec moi ce matin? Amen. Expect it. Attends ça pour l'an 2007. Parce que tout ce que Dieu touche croître, la Bible nous enseigne qu'il y a 5 façons que Dieu se révèle. 5 moyens que Dieu se révèle à l'humanité. Par la parole de Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, la révélation, par l'Église, la communauté des croyants, et par sa création. Dieu se révèle par sa création, par les choses qu'il a créées. Puis quand on regarde la création, il y a 2 choses qu'on apprend au sujet de Dieu. Premièrement, Dieu aime le chaos. Peut-être pas qu'il l'aime, mais il est à l'aise avec. Parce que vous remarquez que tout ce que Dieu a créé bouge. Ça bouge. Tout l'univers, les planètes, le système solaire, tout bouge. La création de Dieu est une création mouvementée de motion et d'action. Toute la planète bouge d'une vitesse incroyable et rapide. Tout l'univers tourne autour de nous parce que Dieu est à l'aise avec le mouvement. Quand il a créé quelque chose, il n'a pas créé un système solaire et planétaire et sa création juste stable, où est-ce que c'est tranquille, ça bouge pas. Ça, tout bouge, toute notre planète bouge parce que Dieu aime les choses qui bougent. Le chaos, le mouvement, un chaos contrôlé. Alors, d'avoir une vie de mouvement, une vie qui bouge, une église qui bouge, de demande, de changement rapide, multitâche, c'est bien, parce que ça égale la divinité. C'est la touche de Dieu. Dieu est à l'aise avec les choses qui bougent. Et ce que je prie en l'an 2007, Seigneur, bouge-nous! Est-ce que je peux entendre amen à cela? Mouvement, bouge! C'est ce que nous voulons, parce que comme on dit souvent, l'Église n'est pas un salon funéraire. L'Église est une salle d'accouchement. Et dans une salle d'accouchement, ça bouge. Mais c'est la vie. C'est la vie. Deuxième chose qu'on apprend au sujet de Dieu, c'est qu'il non seulement qu'il aime le chaos et le mouvement, mais qu'il aime la croissance. Tout ce que Dieu crée, croître. La nature, les arbres, la pelouse, les animaux, les humains, ça croît comme ça et ça croît comme ça. Haut et large! Les scientifiques nous disent que même l'univers est en expansion. Ils ont découvert que notre univers est en expansion continuelle. Tout ce que Dieu a créé, non seulement que ça bouge, mais c'est en croissance. Ça, c'est ce que la création nous enseigne par rapport à Dieu. Il aime le mouvement et il aime la croissance. Tout ce que Dieu crée et tout ce que Dieu touche, croître. Et ça, c'est la création. Puis tous les autres moyens nous enseignent la même chose. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la vie de Jésus, que ce soit la vie de l'Église, quand Dieu est là, ça va être marqué par la croissance. Et nous allons voir par Luc, un écrivain intentionnel, nous allons voir qu'il nous révèle et nous enseigne d'une façon précise que la vie de Jésus et la vie de l'Église primitive a été marquée par la croissance. Alors, soyez attentifs, regardez l'écran en avant, parce que nous allons juste faire une marche rapide. Et nous allons continuer dans les prochains dimanches aussi à mettre l'emphase et enseigner les principes de croissance. Mais ce matin, je veux juste vous donner l'essence de la parole de Dieu sur la croissance. Comment c'était là dans la vie de Jésus et comment ça devrait être dans la vie de l'Église. Alors, nous voyons, selon Luc, que Jésus avait une vie en croissance. Une vie en croissance. Luc chapitre 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est l'aspect individuel, une croissance individuelle. Jésus, en tant qu'homme, en tant que personne, il y avait une croissance dans sa vie qui fait une belle énoncé de mission et une belle résolution pour l'an 2007, pour tous et chacun de nous, qu'on peut s'engager, que ça soit notre résolution, qu'on peut s'engager une croissance mentale par l'étude, par la lecture, une croissance physique, économique, une croissance sociale et spirituelle. Il y a eu la croissance devant Dieu, c'est spirituel, et aussi devant les hommes. Vertical, horizontal, spirituel et social. Alors, j'ai une simple question pour vous ce matin, pour l'année suivante. Comment va votre vie spirituelle? Est-ce que votre vie spirituelle, personnelle, est marquée par la croissance? Est-ce que vous êtes en croissance ou diminution? Est-ce que ça va mieux ou pire que l'année passée? Est-ce que vous avancez ou vous reculez? Votre vie avec Dieu d'une façon mesurable, votre vie de prière, dans la parole de Dieu, votre consécration, votre pureté, votre intégrité, votre dévouement, votre passion, la façon que vous gérez votre temps et votre argent, est-ce que ça va mieux ou pire? Est-ce que la croissance ou diminution? Ça, c'est des questions personnelles, ça. C'est pas pour vous condamner, mais parce que nous sommes concernés. Il faut que votre vie soit marquée par une croissance, comme c'était dans la vie de Jésus. Comment va votre vie avec les autres? Comment ça va avec votre épouse? Comment ça va avec votre époux? Comment ça va avec votre famille, avec vos enfants, avec vos collègues au travail, avec les autres équipes du ministère dans l'Église, avec vos frères et vos sœurs? Est-ce que vos relations détériorent ou est-ce qu'ils progressent? Parce qu'il y a un lien dans la Bible entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Ça peut pas bien aller avec Dieu et mal avec les autres. Il faut que ça va bien avec Dieu et ça va bien avec les autres. Il faut que je bénisse Dieu et il faut que je bénisse les autres. Et ça, c'est la marque de la maturité et la croissance dans la vie personnelle. Alors, on prend un inventaire pour la nouvelle année, puis dit, comment que ça va? Est-ce que je suis en progression, amélioration? Est-ce que je me rapproche du Seigneur? Est-ce que ça va mieux, ma vie spirituelle, mon adoration, ma passion pour le Seigneur, pour sa parole, mon service? Est-ce que ça va bien dans mes relations personnelles? Ce sont toutes des questions qui nous parlent de la croissance personnelle. Et nous allons tout faire ici, à l'Église évangélique de la Rive-Nord. On va continuer à vous parler de votre progrès personnel. On va vous rencontrer, parler, on va prier pour vous, on va vous offrir des outils, on va vous offrir des services, on va vous offrir l'enseignement, on va vous offrir des endroits, des rencontres, on va vous offrir une équipe, tous les programmes et toute la prière nécessaire pour que vous pouvez connaître la croissance 100%, aucune exception. Chaque homme, femme, jeune et enfant de l'Église évangélique de la Rive-Nord faut connaître la croissance en l'an 2007. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Croissance personnel. Si vous voulez applaudir, applaudis comme il faut. On applaudit la parole de Dieu. On va en parler plus le 28 janvier sur cette croissance personnelle et les clés pour cela. Non seulement que Jésus avait une vie en croissance, Jésus avait également une équipe en croissance. Jésus ayant, Luc chapitre 9, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnait force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Les envoyer prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il a assemblé les 12. Ça, c'est l'aspect, l'intimité et l'implication. Quand on parle de l'équipe, on parle de leadership, on parle de l'intimité avec Dieu, on parle de l'implication dans le ministère. Les disciples étaient appelés afin d'avoir une intimité avec Jésus et aussi pour avoir une implication dans son ministère. Et Jésus a appelé 12. Et par la suite, nous voyons en Luc chapitre 10, 12, ça suffisait pas. Alors après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il a passé de 12 disciples à 82 disciples et ajouté 70 sur les 12 qui existaient. Il a envoyé deux à deux devant lui toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Est-ce que c'était suffisant pour Jésus? Est-ce qu'il dit, mais là j'ai 12, là il y a une augmentation, un autre 70, on a 82 disciples. Est-ce que ça suffisait pour Jésus? Est-ce qu'il dit, mais ça va pour l'équipe, on va juste laisser cela parce qu'on a l'équipe nécessaire? Non, Jésus continue en disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous dites, mais Jésus, vous avez 82 ouvriers, ça ne suffit pas. Il faut toujours plus d'ouvriers, plus de contributeurs, plus de bénévoles, plus de personnes qui vont œuvrer. Il dit, priez donc le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il a dit, priez. Il n'a pas dit, priez pour le feu, priez pour la puissance, priez pour le réveil. Il a dit, priez pour des ouvriers. Car nous avons, non un problème de puissance, mais un problème de personnel. C'est pas qu'on manque la puissance aujourd'hui, mais on manque des gens qui vont se donner, s'engager, servir, qui vont dire, me voici Seigneur, envoie-moi dans la moisson. Alors il a dit, priez pour d'autres autres membres de l'équipe. Et ma prière, c'est que chaque homme et femme de l'Église évangélique de la Rive-Nord, cette année, devient un membre de l'équipe. Un membre avec une intimité avec Jésus et une implication dans le ministère. Nous voulons passer de 12 à 82 et à 100 et à 500 et à 600, non seulement membres de l'Église, mais membres de l'équipe. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Une équipe en croissance pour rejoindre l'humanité. Éventuellement, en Actes, c'était une multitude des disciples que nous voyons en Actes. Il a passé à une multitude de disciples. Le désir pour 2007, c'est la croissance dans votre vie spirituelle, mais aussi la croissance dans ce qu'on appelle l'équipe. Maturité, leadership, gens qui s'impliquent. Moi, dans quelques instants, je vais présenter une partie de l'équipe Église évangélique de la Rive-Nord. Puis le 28 janvier, je vais présenter une autre partie de l'équipe. Leadership, puis counseling spirituel, puis l'éducation chrétienne et jeunesse. Puis vous présentez des membres de l'équipe, des contributeurs, des personnes impliquées. Et nous prions qu'il y ait une croissance personnelle, devrait donner la croissance dans l'équipe, dans ceux qui contribuent, qu'on peut appeler les disciples. Puis une équipe, une croissance dans l'équipe va égaler aussi une croissance dans l'Église. Alors Jésus avait une vie en croissance. Jésus avait également une équipe en croissance. Puis il y avait également un ministère en croissance. On voit les passages ici qui nous parlent de son ministère qui est en croissance, Luc chapitre 4. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ça, c'est l'aspect influence. Ça, c'est une croissance de l'influence, d'impact dans son ministère. Ça dit, sa renommée, Luc chapitre 5, on le lit rapidement ensemble, regardez sur l'écran. Sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour y guérir leurs maladies. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venant de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ça se répandait, des foules. Ça répandait dans les autres villages et les autres villes. On continue à Luc chapitre 6. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où trouvait une foule de ses disciples, une multitude de peuples, toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Luc chapitre 7, verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le ministère des pays d'alentour. Luc chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns sur les autres. Par des milliers. Dans quelques-uns de vos Bibles, c'est traduit par des myriades. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, des myriades, mais c'est des milliers de personnes. Un grand nombre de personnes à un tel point qu'il n'y avait pas de place et ça se foulait les uns sur les autres parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Luc essaie de nous enseigner quand Jésus est présent, quand Jésus est actif, il va avoir une influence, un impact, non seulement local, mais un impact régional, un impact sur le pays national, un impact international. Ça venait de partout. Son influence allait de plus en plus et c'était une croissance. Et ma prière, Seigneur, aide-nous à l'Église évangélique de la Rive-Nord, tellement avoir une présence de Jésus parmi nous qui est actif dans nos ministères et nos vies, qui va avoir un impact sur Laval et sur la Rive-Nord et sur le Québec et sur la francophonie et éventuellement sur les nations. Une croissance d'influence impacte par la présence du Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Croissance d'influence et de ministère. Alors, selon Luc, la vie de Jésus était distinguée par la croissance. Puis non seulement la vie de Jésus, ça c'est l'évangile de Luc, mais également la vie de l'Église est distinguée par la croissance. Luc nous enseigne que qu'est-ce qui était bon pour Jésus était bon pour l'Église. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ça, c'était Jésus. C'est certain qu'il y avait croissance, une croissance dans son équipe, une croissance dans son ministère, une croissance dans son impact, et sur la foule, et sur les pays tout autour. Mais c'était Jésus. Mais Luc nous enseigne, il a écrit ces deux livres-là, afin de nous enseigner de façon catégorique. Qu'est-ce qui était bon pour Jésus est bon pour l'Église? Et combien sont d'accord avec moi que qu'est-ce qui était bon pour l'Église dans le livre des Actes est bon pour l'Église en l'an 2007 ici au Québec? Là, est-ce que je peux entendre un vrai amen? C'est bon pour nous. C'est bon pour Jésus. C'est bon pour la première Église. Et c'est bon pour nous. Alors, il nous dit d'une façon catégorique, c'est pas seulement Jésus qui avait une vie en croissance, mais l'Église était une entité de croissance et d'augmentation. Rapidement, on regarde à l'écran, juste faire une petite marche dans le livre des Actes, et essaie de nous enseigner quelque chose, Dr. Luc. Acte 1:15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 personnes. Ça, c'est acte 1. Mais acte 2, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur s'ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils sont passés de 120 à 3000 et des gens qui s'ajoutaient à tous les jours. On continue notre marche. Actes chapitre 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Acte chapitre 5, versets 11 et 14 et 6. Une grande crainte s'appara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En ce temps-là, le nombre des disciples s'augmentait. Non seulement le nombre de membres dans l'Église, mais le nombre des disciples. Et ça nous dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples qui étaient là. Il parle d'une assemblée. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. C'est un mot qui est un mot intéressant, le mot assemblée. C'est un mot très significatif en grec que nous, on traduit assemblée. Mais Luc se sert de mot hébreu traduit en grec, qui est un mot qui signifie nation. Nation. C'est le même mot dans l'Ancien Testament. À chaque fois qu'on voit ce mot-là, assemblée, c'est traduit comme nation. La nation. Alors, Luc, il nous communique que l'Église a passé d'un peuple à 120 à une nation. C'était une race. C'était un peuple. Il était rendu une nation de personnes. Et systématique et méthodique, Luc nous enseigne que la première Église était une Église en croissance, qui éventuellement a couvert la terre, des villes peuplées et des gens dans le désert. C'était une croissance en membres. Ça, c'est l'aspect quantité. Il nous parle ici des chiffres. Il dit qu'il y avait une croissance en membres. Ça, c'était l'aspect quantité, mais également une croissance en mission. Ça, c'est l'aspect qualité. Pas seulement quantité, mais aussi la qualité. C'était une église avec une mission. Voyons ici en Actes chapitre 1, 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, local, dans la ville, mais dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'impact missionnaire. Il dit, vous êtes appelés à avoir un impact géographique, une expansion géographique, une expansion sur la terre, l'aspect missionnaire. Luc chapitre 24, il leur dit, ainsi il est écrit, puis ça, c'est les paroles qu'il a laissées avec Jésus, les dernières paroles qu'il a laissées avec ses disciples. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, commencées par Jérusalem. Il les laisse avec une vision d'impact géographique, d'impact global, de faire des disciples de toutes les nations. C'est la même chose qu'il dit en Matthieu chapitre 28. Il a laissé quand il dit « Allez », un verset renommé, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu a une grande vision pour l'Église. Jésus les a laissé un grand mandat. Il n'a pas dit, allez faire des disciples dans quelques poignées de main de personnes là, cachées dans un coin à quelque part. Allez faire le mieux que possible là, avec les gens pour faire quelques disciples jusqu'à temps que je reviens. Jésus les a laissé une grande vision et un grand mandat. Il dit, vous allez prêcher l'Évangile. Je vais être avec toi, avec mon autorité et ma puissance. Tu vas les enseigner, les baptiser, et vous allez faire des nations des disciples. Et selon M. Harper, depuis quelques mois, le Québec est maintenant une nation. Alors moi, je veux prier, Seigneur, fais du Québec une nation des disciples. Est-ce que je peux entendre amen à cela? La nation, une nation des disciples. Il est impossible que votre vision soit plus grande que la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu pour Québec, c'est que Québec soit sauvé, enseigné, qu'ils font membre de l'équipe. Le Seigneur a dit, allez dans les nations prêcher l'Évangile. Ma prière que ça devienne une réalité. Une réalité comme c'était dans le livre des Actes, quand ils ont prêché, on n'a pas le temps de voir, mais on a Philippe qui a prêché en Samarie, puis il y avait la joie dans la ville de Samarie, un réveil total pour toute la ville. Après ça, il a prêché dans le désert à une personne, puis il y avait la joie pour cette personne dans le désert. On a Paul qui arrive en Rome, et Paul est en Rome, le centre de l'univers dans son temps, puis a prêché l'Évangile en Rome. On voit, c'est clair et évident. Luc nous démontre la croissance comme l'essence de la vie de l'Église. Si on le révise, une Église en croissance, premièrement en quantité, on voit que l'Église a passé de 120 à 3000, à 5000, à une multitude, et c'est devenu une nation. Imagine, l'Église a passé de 120 personnes dans une salle de prière pour un temps prolongé. Ça, c'est une des clés, puis on va parler pendant l'année sur l'importance de la prière, puis avoir des moments de prière. Le 28 janvier, je vais apporter une autre partie de ce message, et à 4 heures, je vais être avec vous, puis on va être ensemble pour un moment de prière, pour sceller cette vision dans la prière, parce que la première église est née dans une réunion de prière, puis ça a passé de 120 à une nation, une race, un peuple, avec un impact sur toutes les nations dans la prière. C'est une croissance en quantité. Mais c'était aussi une croissance en membres, mais aussi en influence et impact. On voit ici en qualité, en mission, ils ont passé de Jérusalem à Samarie, dans les villes d'alentour, en Rome, le centre de l'univers dans le temps, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le voilà la vision de Dieu pour l'Église. Le voilà qu'est-ce que Luc nous enseigne ici. C'est catégorique. Il y a une croissance, une augmentation, un impact. Les âmes sont sauvées à tous les jours. Il y a des missionnaires qui sont envoyés. Il y a des membres de l'équipe qui sont inclus. Il y a la contribution. Il y a des disciples. Il y a l'action. Il y a la prédication. On bouge. On nourrit. On aide. On prie. Et le Seigneur, il donne la croissance. Et je prie, Seigneur, donne-nous la croissance numérique, mais la croissance aussi en qualité et en mission et en contribution et en ministère. Et Jésus et Luc viennent à l'encontre d'un esprit de petitesse, des petites possibilités et des petits rêves. Il détruit l'idée que nous pouvons jamais être ou jamais devenir grand-chose. Le Seigneur a une grande vision pour vous, pour moi et pour l'Église évangélique de la Rive-Nord. Et ça, ça mérite un amen et une bonne main d'applaudissement. Seigneur, on reçoit la vision, une grande vision. Parce que ça vient de Pasteur Mark? Non! Parce que ça vient de la Bible! C'était la première église! C'est évident! C'est catégorique! Nous ne demandons pas la perfection. On prétend jamais que l'Église évangélique de la Rive-Nord est parfaite ou que l'équipe est parfaite. Mais ce qu'on cherche malgré nos imperfections, c'est la croissance, car c'est le signe de la vie et la santé. Et Jésus voit plus de possibilités avec nous que nous pouvons jamais imaginer. Dieu voit une église puis un peuple avec le potentiel pour percer. Jeunesse qui va percer cette génération. L'éducation chrétienne qui va percer pour la famille aujourd'hui. Les enfants qui sont perdus. Le ministère de counseling pastoral qui va percer pour des personnes en difficulté, avec un cœur déchiré ou une famille déchirée. Percer missionnaire. Percer pour les pauvres de la Rive-Nord. Jésus voit plus de possibilités que nous pouvons jamais imaginer. La croissance n'égale pas la perfection, mais plutôt la santé. Je termine dans quelques instants. Vous savez que nos enfants ne sont pas parfaits, mais s'ils sont en santé, ils vont croître. Hein? Quand mon fils Jay est né, il a 17 ans, il est né un tout petit bébé. Après 17 ans, il est maintenant plus haut que moi, et plus grand que moi, 6 pieds quelque chose. Est-ce qu'il est parfait? Non. Mais il est en santé. Santé. Des églises qui se pensent parfaites, très saintes, très sanctifiées, mais l'Église parfaite. C'est comme ça qu'ils justifient leur manque de croissance. Parce qu'on est trop parfait pour la majorité. Mais sanctification n'égale pas santé. Croissance égale santé. Il n'y a pas un être humain qui est parfait, mais chaque être humain, s'il est en santé, va avoir la croissance. Et ce qu'on cherche à l'Église, il va avoir des imperfections, Il va avoir des erreurs de temps en temps. Il va avoir des manques de temps en temps. Mais ce qu'on cherche, oui, c'est la perfection, puis c'est la discipline, puis c'est la sainteté, puis la pureté, puis ça va être prêché, puis ça va être prié. Mais ce qu'on cherche plus que rien d'autre, c'est d'être une église en santé, où ce qu'il y a la croissance, où ce que ça bouge, où ce qu'il y a l'impact, où ce que la ville de Laval est bénie par notre présence dans cette ville. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ce que nous cherchons par la grâce de Dieu... Ce que nous cherchons par la grâce de Dieu, pour nos vies, nos ministères, pour l'équipe, pour l'Église, c'est une croissance, un impact malgré nous, par l'aide de Dieu. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Marc, tu prêches la croissance. C'est parce que tu veux avoir plus de gens dans l'Église, c'est parce que tu veux avoir une grande Église. Oui! Yes! Oh, juste parce que tu veux avoir une grande... Oui, on veut une grande Église! Parce que plus de gens dans l'Église, moins de gens dans l'enfer. Avez-vous un problème avec ça? C'est sûr qu'on veut une grande Église. On veut que cette Église soit grande, puis on veut que chaque Église à Laval soit grande, et on veut que toutes les Églises au Québec soient grandes, puis on va y implanter des Églises, puis notre prière, c'est qu'ils deviennent toutes des grandes Églises. On a besoin des Églises grandes, énormes, en croissance, partout au Québec, parce qu'on vit dans une génération et une province qui est perdue. Seigneur, donne-nous des grandes Églises, notre Église et les autres Églises, parce qu'on veut des âmes sauvées à tous les jours, ajoutées à l'Église. On veut vider l'enfer, on veut remplir le ciel. So, oui, aucune excuse pour ça. Je veux une grande Église. Parce que l'Église, c'est des gens, c'est des membres, c'est des âmes, c'est l'humanité, c'est des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes. Seigneur, remplis l'Église. Une réunion, deux réunions, trois réunions. C'est sûr qu'on veut des gens dans l'Église parce qu'on les aime. Ah, tu vas avoir une, tu vas avoir la croissance. De l'Église, parce que tu vas avoir une Église comme UNV. Non, parce que je vais avoir une Église comme O-C-T-E-S. L'Église des Actes. Livre des Actes. Pas une Église comme n'importe quelle autre Église, mais parce qu'on veut avoir une Église comme le Livre des Actes. L'Église des Actes, c'était une Église en croissance. Avoir une grande Église, non pas être comme une autre Église. On apprécie toutes les églises et toutes les grandes églises. Oh, parce que des fois, on entend quand on parle de croissance, « Ah oui, mais c'est l'influence américaine. Tu vas avoir une église américaine, une église en croissance. » Merci, Seigneur, pour toutes les grandes églises américaines où ce que les âmes sont sauvées. Et oui, on veut avoir une grande église, mais pas pour être américain ou comme n'importe qui d'autre. C'est pour être comme le Livre des Actes qui ont passé de 120 à une nation avec un impact global. Est-ce que je peux entendre en amène à cela? C'est biblique! Biblique! Pas américain, biblique! Ah oui, c'est pour la gloire de l'Église évangélique de la Rive-Nord. C'est pour la gloire de Marc Lecomte ou Claude Hout. Non, c'est pour la gloire et le plaisir du Seigneur Jésus-Christ. Car ça nous dit en Proverbe, quand que le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand que le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Et c'est ce qu'on cherche. Pour la gloire de Jésus, pour la gloire de notre roi, nous voulons voir une église et des églises remplies pour sa gloire, parce que c'est son désir, c'est le mandat qu'il nous a laissé, c'est sa mission. C'est ce que nous voulons, parce que la croissance selon Luc, c'est une croissance en quantité, en qualité, en maturité, en ministère, en membre, en mission, en implication, en intimité, en influence, en impact, en tant qu'individu et en tant qu'église locale et globale. Ça, c'est ce que nous prions. C'est ce que nous cherchons. C'est une année de croissance. Et la croissance de l'Église, ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas par accident. Ça n'arrive pas juste comme ça. C'est parce qu'on est préparé pour, on a prié pour, on a travaillé vers, parce qu'on l'a cru, parce qu'on était unis vers le même but. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Et dans les semaines à venir, on va donner des principes pour la croissance. Et on va vous appeler à la croissance. Et vous donner des outils pour la croissance. Pour avoir des moments de prière pour prier pour la croissance. Et toutes les décisions que nous allons prendre en tant que leadership, en tant que comité d'administration, on va les prendre en vue de la croissance. Non la tranquillité ou la stabilité, mais la croissance. Seigneur, bouge. Et le mouvement, donne-nous la croissance parce que tu es présent ici, dans le ministère, dans nos vies, nos ministères, dans l'équipe, dans les contributeurs. Seigneur, une croissance financière, une croissance en numérique, une croissance en impact missionnaire. Parce que vous savez que notre cœur n'est pas seulement le Québec, mais la francophonie. Notre prière est que l'Église évangélique de la Rive-Nord, qui était et qui l'est, va devenir encore plus un impact dans la francophonie. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Combien s'engage à la croissance ici ce matin? Est-ce que je vois vos deux mains levées? Et je m'engage à la croissance personnelle, à la croissance dans ma vie, dans mon ministère, dans mon influence. Je m'engage à croire les possibilités, à vivre toutes les possibilités que Jésus me laisse et que Jésus voit pour moi. Si c'est votre prière, je vais vous demander, vous levez avec moi. Levez vos deux mains vers le Seigneur. Je demande les musiciens de s'approcher. Puis juste un moment, tous ensemble, un saint refus de demeurer pareil. Un saint refus de statu quo. Je vais faire quelque chose de différent en l'an 2007. Je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Je vais croire le Seigneur. Malgré mes limites, mes limitations, malgré mes imperfections, malgré mes faiblesses. On n'est pas terminé encore. Restez encore quelques instants. On a une dernière chose qu'on veut faire ici ce matin. On n'est pas fini. On n'est pas fini. Une dernière chose très importante à faire avant qu'on quitte ce matin. Avant de rentrer en ça, j'avais dit que je lançais la vision. Je lançais, puis je lance avec conviction parce que c'est de la Bible. C'est le cœur de Dieu pour vous. Alors c'est pour ça que je peux le lancer avec conviction. Puis on va le continuer. On va le continuer au fur et à mesure pendant l'année pour avoir des moments de prière. M'en lancer l'appel. Et ce matin, c'est tout simplement, je levais nos mains vers le Seigneur et dis, Seigneur, je m'engage à cela. Seigneur, cette année soit une année de croissance, de rapprochement, d'avancement, d'amélioration, d'augmentation et de changement dans ma vie, Seigneur. C'est ce que je m'engage. C'est ce que je m'engage, Seigneur, à ça. Seigneur, aide-moi. Aide-moi par ta grâce à être, Seigneur, à avoir une croissance dans mon implication, dans mon service. Je veux que ma vie compte. Je veux que mon temps compte. Je veux que mon implication compte. Seigneur, je mets mon corps, mes talents, mes pensées, mon éducation, mes finances entre tes mains pour ton Église. Seigneur, prie, rends-nous. Seigneur, rends-nous une église d'impact et d'influence, locale, régionale et globale. On le prie au nom de Jésus-Christ. Juste un moment, levons nos voix tous ensemble et commence à prier. Dis, Seigneur, fais-la pour moi. Je m'engage à ça. Laisse le Saint-Esprit sceller cette parole dans votre cœur. Sceller cette parole dans votre cœur. Expect it. On l'attend. On le possède au nom de Jésus. Ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la Bible. C'est pas ma vision, ma révélation. C'est la révélation de Dieu pour vous, pour l'Église. Croyez-le. Croyez-le. Le Seigneur va répondre à nos prières. Le Seigneur va honorer notre implication. Le Seigneur va bénir et le Seigneur va agir. Est-ce qu'on peut prendre la main de la personne à côté de nous? Prenez la main de la personne à côté. Pour cette nouvelle année. On va juste demander, Seigneur, ton aide, ta bénédiction, Seigneur. On s'engage, Seigneur, l'un envers l'autre. Seigneur, pour ce ministère. Seigneur, on s'engage. Seigneur, pour cette implication et cette croissance. Quand on prend la main de la personne à côté de nous, c'est une forme d'engagement. C'est un engagement pour dire, je m'engage à servir, je m'engage à être une source de bénédiction. Je m'engage à avoir une croissance spirituelle et sociale, une croissance envers Dieu, puis une croissance envers les autres. Seigneur, on s'engage à cela. S'engage et on s'implique. On est debout devant toi. On demande ton aide, Seigneur, ta grâce, ton aide et ton implication, ton soutien pour nous aider à accomplir ton appel, ta vision pour nous, pour tous et chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demandez-vous asseoir juste quelques instants. On va terminer d'une façon différente ici ce matin. Soyez patient avec moi. On va dépasser peut-être de 5 minutes, pas plus. Soyez patient avec moi, mais moi, je veux faire quelque chose de différent ici ce matin. J'aimerais qu'on peut terminer avec un mot de prière pour l'équipe. Je dis à tous les dimanches, je vais présenter une partie de l'équipe de l'Église évangélique de la Rive-Nord. Puis la façon que nous allons accomplir cette vision de croissance, croissance personnelle et pour l'Église, c'est par l'équipe. Et moi, j'aimerais, ce ne serait pas bien de débuter la nouvelle année sans voir un moment où je vous présente l'équipe. Il y en a plusieurs qui travaillent en arrière la scène. Mais l'équipe pastorale et l'équipe de personnel administratif, ceux qui sont en plein ou partiel ou engagés par l'Église pour une tâche ou un ministère. J'aimerais les présenter ici ce matin, puis je vais les nommer, puis par la suite, je vais les demander de se placer ici en avant. Toute l'équipe, on va terminer avec un mot de prière pour eux, tous ensemble. Ça, c'est l'équipe. Ça commence avec eux, mais après ça, à un moment donné, on va vous présenter les diacres, puis les ministères, puis l'équipe de counseling pastoral, puis l'éducation, puis jeunesse. Pour l'instant, c'est l'équipe pastorale et le personnel administratif. Première personne que j'invite en avant, c'est le pasteur Samuel Lecomte. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet homme? Oui? et accepter de demeurer en place. Juste d'avancer puis faire face à la congrégation. Il a accepté de demeurer sur place malgré sa retraite. Le fondateur de l'Église, le pasteur principal pendant presque 30 ans, mon père, mon mentor, mon héros, mon modèle, qui a accepté de demeurer sur place malgré sa retraite pour faire des tâches pastorales. Une implication les dimanches matins, disponible aussi pour l'enseignement, pour la prédication. La semaine aussi pour counseling, faire la visitation, aider les personnes, aider avec les mariages, aider avec les funérailles, visiter les personnes dans les hôpitaux, les personnes dans des crises. Il va faire les tâches berger, les tâches pastorales, tout simplement, parce qu'il a pris sa retraite. Dans le fond, nous avons un berger sans le berger allemand. Il va faire les tâches de berger de l'Église et les tâches pastorales qu'on apprécie. Il y a Stéphane Langlois, j'invite Stéphane, pasteur d'éducation chrétienne et formation spirituelle, qui monte un programme formidable pour les enfants et aussi pour les adultes, qui va aller de saison par saison. On va présenter tout son programme et son équipe un petit peu plus tard. On remercie beaucoup pour son travail avec la musique et l'adoration, mais maintenant, il va focaliser sur l'éducation. Francine Cloutier, qui n'est pas là en ce moment, elle est en vacances, justement. Je pense que c'est une qui est partie au sud pour éviter la neige. Relations d'aide et counseling pastoral. Elle va être responsable pour tout le côté relations d'aide, counseling pastoral, avec toute une équipe de personnes qui va vous aider dans des moments difficiles, avec des problèmes complexes. Je vais le présenter, son équipe, un autre moment donné. Nous avons le pasteur Mathieu Moreau. Mathieu Moreau, qui fait partie aussi de l'équipe. On est très heureux d'avoir pasteur Mathieu Moreau avec son épouse Emmanuelle, que se joignent à l'équipe. Ça, c'est son premier dimanche. On va l'applaudir dans un instant. Mathieu Moreau arrive comme pasteur pour la jeunesse. Puis il n'arrive pas avec beaucoup de pression. Mais Mathieu, juste pour vous dire, dans une lettre que j'ai envoyée à toute la congrégation, je l'ai présenté comme quelqu'un qui nous vient de l'Église Nouvelle Vie de Longueuil avec plusieurs années d'expérience comme pasteur jeunesse, avec des idées innovatrices, l'énergie, l'enthousiasme et une vision de la part de Dieu pour cette jeune génération. Ça, c'est la pression qu'on met sur toi. Et on est heureux, très heureux. Mathieu arrive, je le connais depuis des années. Et Mathieu Moreau arrive pour remplacer, vous savez, Laurent Fabregue. Et ça fait des années d'expérience d'un homme qui a organisé beaucoup d'événements régionaux et provinciaux pour la jeunesse, avec un cœur pour la jeunesse. Il nous arrive de l'équipe Impact Jeunesse de l'Église Nouvelle Vie sur la Rive-Sud. Il est ici avec son épouse Emmanuelle. Vous l'avez vu chanter, jouer le piano aussi, des talents musicaux. Et il est déjà parti. On parle de quelqu'un proactif. Il est déjà parti avec un groupe de jeunes pour un moment de prière jeudi, vendredi, avec une couple de leaders, avec une équipe de leaders, et il va être ici au bureau officiellement à partir de mardi. On est très heureux de souhaiter le bienvenu. Puis j'aimerais en même temps souhaiter le bienvenu à un autre couple qui se joint à eux. C'est un couple qui a un lien de cœur avec ce couple-là. Il ne vient pas comme engagé par l'Église, mais il vient pour soutenir et aider cette équipe et avec la jeunesse en feu. J'aimerais inviter Denis et Mélanie Favreau de se joindre avec les Moreaux ici en avant. Ça, c'est un couple très cher, un couple formidable. Il répond à l'appel de Dieu pour l'Église comme un lien de cœur avec ce couple. Et ces deux couples ont été une grande bénédiction à l'Église Nouvelle Vie. Beaucoup, beaucoup d'aide, beaucoup d'implication, beaucoup de responsabilité. Et répond à l'appel de Dieu pour venir aider l'Église évangélique de la Rive-Nord et aussi la jeunesse en feu. Ils travaillent un peu ensemble comme un couple avec un lien de cœur. Puis on apprécie beaucoup, pour rendre grâce au Seigneur, pour Mathieu Moreau, pour Manuel, pour Mélanie et pour Denis Favreau. Et je sais que la jeunesse va être bénie. Il m'a déjà partagé sa vision. Puis c'est toute une vision. Je sais qu'ils vont être bénis sur son leadership. On est heureux de souhaiter la bienvenue, Je veux dire, présenter Claude Samuel aussi, qui est là. Oui, c'est ça, quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Claude Samuel, qui est là, qui va être pasteur temps partiel, à part des tâches pastorales variées qu'il va avoir. Il va être responsable pour les réunions de dimanche, la logistique, la ressource humaine, les ministères auxiliaires. Beaucoup de responsabilités, Claude Samuel. Alain Daou, qui est responsable pour l'équipe de la comptabilité. Alain Daou, qui est un homme qui est ici aussi depuis des années et qui est responsable pour toute l'équipe de la comptabilité, consultant administratif pour le comité d'administration, responsable pour toutes les finances dans l'Église. On est heureux de souhaiter la bienvenue à Stéphane Kiri. Vous le connaissez, je pense, hein, Stéphane Kiri, pasteur Stéphane Kiri, qui va nous aider temps partiel. Il va nous aider comme temps partiel avec la musique et avec les musiciens, avec la louange, l'adoration, avec les solistes, avec les ensembles vocaux. Il va aider avec le staff et aussi de temps en temps avec la prédication. Et on connaît Stéphane, ça fait des années qu'il voyage à travers la francophonie. I mean, des dizaines de fois par année, il voyage pour faire des conférences sur la musique. Il bénit avec ses CD, avec ses albums. Il y a un don aussi pour la louange, l'adoration, à part la communication. Alors, nous sommes très heureux d'avoir pasteur Stéphane Kiri qui va aider sur la direction, pour diriger cette partie-là. Nous avons Hélène Rayon, directrice de ministère Option Rive-Nord. Option Rive-Nord, c'est une des branches œuvres humanitaires de l'Église évangélique de la Rive-Nord que nous voulons développer davantage dans la nouvelle année. Hélène Rayon, elle est en arrière. Oui, OK, elle était à la table pour l'ETF. Mais viens de passer ici en avant. On veut quand même te prier pour toi. Ça, c'est Option Rive-Nord, ça, pour les œuvres humanitaires. Nous avons Monique Bégin, qui est une adjointe au pasteur principal et une personne avec tellement de tâches que c'est impossible à les énumérer ce matin. Beaucoup de tâches, multifonctions, multiresponsabilités. Très compétente et consciencieuse. C'est un privilège de l'avoir comme une adjointe. Surtout dans une structure comme nous avons, qui est une structure efficace, mais non typique. Alors, c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui nous aide avec tellement de tâches différentes. Et en plus de cette équipe, nous avons l'équipe de personnel administratif, que je ne veux pas oublier. Beaucoup de ces personnes-là travaillent en arrière à la scène. Daniel Lavoie, notre réceptionniste fidèle depuis des années, et aussi son équipe de soir, Melissa Slattery, et Maryse Audrey Samuel et Virginie Rayon. Ça, ça fait l'équipe des réceptionnistes. Je vais demander à ces personnes de s'avancer, si je nomme votre nom, de s'avancer. Melissa, Maryse Audrey, Virginie. Il y a Lynn Lapointe comme secrétaire. Il y a Mona Chouinard, commis à la comptabilité. Il y a Gérard Boileau, technicien informatique. Il nous aide avec l'informatique et les ordinateurs. Nous avons Fred Chabot, notre technicien de son. Est-ce que tu es capable de quitter le console juste pour l'instant, venir en avant? Il faut donner une bonne main d'appréciation pour Fred. Fred, il a la tâche la plus difficile dans toute l'Église. Parce que quand ça va bien, tout le monde l'ignore. Mais quand ça va mal, tout le monde le regarde. Alors, c'est une tâche ingrat, difficile, et le moins qu'on parle de Fred, le mieux que c'est. Ça veut dire que le son va bien. Alors, c'est vraiment ingrat comme tâche, mais on apprécie beaucoup toutes ses fonctions et toute l'attention très consciencieuse pour tout le côté technique et le côté de son. Il faut pas oublier Yvon Moreau. Yvon Moreau, qui est ici depuis le début de l'Église, même avant le début de l'Église, je pense. Yvon Moreau est ici depuis l'éternité. Ça, c'est Yvon Moreau, qui est là comme surintendant de la bâtisse. Ça, c'est un homme qui mérite aussi une belle appréciation. Mais Yvon Moreau, le bâtiment, c'est son bébé. Puis il s'en occupe. Puis depuis le début, il était là au début, première église à Saint-Eustache, après ça à Laval, puis la construction, puis les centres, les écoles qu'on a faites, puis les théâtres et tout ça, jusqu'à rendu ici, puis a pris soin à chaque fois d'une façon fidèle, lui et son équipe. Alors on apprécie beaucoup Yvon Moreau, avec son épouse Doris Moreau, qui fait l'entretien des bureaux et qui l'aide temps partiel. C'est Doris qui l'aide ici à l'église, puis c'est Yvon qui l'aide à la maison. Alors ça fait un bon partenariat. Doris Moreau, Daniel Tremblay aussi, Pierre Lessard et Denis Bélanger. Ça, c'est l'équipe de l'entretien. S'il vous plaît, Daniel, Pierre et Denis, s'ils peuvent s'approcher ici en avant aussi pour faire l'équipe ensemble avec Yvon Moreau. Alors, je crois que le seul qui manquait ce matin, c'est Francien Cloutier, mais ça fait partie. Il y a toute une autre équipe que nous allons présenter. Toutes les autres équipes d'éducation, jeunesse, cantine pastorale, les diacres et bien d'autres personnes qui s'impliquent. Mais lève-là votre équipe pour 2007, l'équipe pastorale et d'administration et pour les bureaux et les techniciens et aussi pour le bâtiment. Et moi, j'aimerais qu'on puisse les donner une bonne main d'appréciation, d'applaudissement, de reconnaissance et dire merci pour l'équipe Église évangélique de la Rive-Nord. Merci, Seigneur. Merci pour Stéphane et Francine. Pour mon père, Seigneur. Merci pour Stéphane. Merci pour Mathieu Moreau, Seigneur. Merci. Merci pour Denis, Mélanie, Emmanuel. Merci pour Yvon. Merci, Seigneur, pour Mélissa. Merci pour Monique. Merci pour Mona, Hélène, Alain, Claude. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ces personnes chères, pour la fidélité des gens solides, stables, fidèles, impliqués. Et nous, on est l'équipe qui va vous aider à connaître la croissance, à vivre le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour vous. Je vais juste demander, juste terminer de cette façon, juste étendre vos mains vers en avant. La plus grande bénédiction qu'on peut donner pour toute l'équipe, c'est la bénédiction de la prière. Et je vais demander mon père, le pasteur Samuel, le conjoint de venir au micro ici et juste terminer avec un mot de prière et réclamer l'aide de Dieu, l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu. On veut surtout penser à Mathieu Moreau, Mathieu Emmanuel et avec les Favreau qui s'ajoutent à l'équipe. C'est une transition pour eux, c'est toute nouvelle pour eux, des nouveaux défis, mais Dieu lui a donné une vision, une parole, des projets pour la jeunesse, et nous voulons voir une croissance, un impact dans le ministère Impact Jeunesse, mais on veut surtout juste réclamer bénédiction de Dieu pour eux aussi, pour leur intégration et pour toute la jeunesse et pour toute l'équipe et pour l'avenir. Et dans la prière, on va le posséder puis on va le sceller dans la prière, la vision de croissance pour l'an 2007. Étends vos mains ici en avant puis on termine avec ce mot de prière.
Et bon Père Céleste, nous te remercions à cause que ta grâce te manifestait à notre égard, que nous puissions tous ici ensemble et debout devant toi aujourd'hui pour célébrer ensemble, te louer, t'adorer pour le premier dimanche de 2007. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, et grande est ta fidélité. Et nous te remercions pour la croissance de l'Église, Seigneur, parce que tu nous as dirigés par ton Esprit Saint, Seigneur, et grande a été ta fidélité pour entreprendre le travail des années pour nous. Mais Seigneur, nous regardons maintenant ce matin pour le futur. Nous sommes tous debout ici devant toi ce matin, Seigneur, en regardant vers l'avenir, Seigneur. Nous sommes tous debout ici pour dire, Seigneur, me voilà. Je suis ici pour te servir. Que nous puissions réaliser, Seigneur, ce grand privilège que nous avons de te servir. Mais réalisant, Seigneur, qu'on ne peut le faire sans toi, nous convoitons présentement ce matin la puissance et l'onction de l'Esprit-Saint sur chaque serviteur, Seigneur, ici ce matin, et sur chaque membre de l'Église, que je sais que chacun d'eux sont aussi des serviteurs devant toi. Nous sommes un grand nombre de disciples ici, Seigneur, ce matin, et c'est seulement le début. Et nous demandons, Seigneur, plus que toute autre chose, que nous puissions être conscients de notre tâche que nous avons, Seigneur, à proclamer ta parole, à évangéliser, à voir des hommes sauvés, Seigneur, et s'ajouter à l'Église chaque jour et chaque semaine. Notre prière, Seigneur, pour être une assemblée, une église du Nouveau Testament, pour être une église de actes, Seigneur, il faut voir une personne ajoutée à l'église chaque jour qui sont sauvées. Et nous réclamons 365 personnes sauvées cette année, Seigneur, et dans le but que nous puissions les voir ici grandir, Seigneur, dans ta présence, et que chaque membre de l'équipe ici va être ici pour voir non pas seulement au salut des hommes, mais au bien-être des hommes et les voir grandir, Seigneur, dans ta présence. Nous demandons, Seigneur, présentement, pendant que nous sommes debout devant toi, que tu puisses glorifier Jésus, que tu puisses être élevé, Seigneur. Dans nos vies, tu vas tirer tout homme vers toi, Seigneur. Sois glorifié dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects de cette assemblée, Seigneur. C'est ton Église et nous déclarons que Jésus est le Seigneur de cette église pour la gloire et pour l'honneur du Seigneur. Et tout le monde a dit amen et amen.
Amen. N'oublie pas, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore vos boîtes de gym, allez, prenez votre boîte de gym en arrière à la table. N'oublie pas de visiter la table ETF pour vous inscrire pour des cours et que le Seigneur vous bénisse. Et tous les diacres, le comité d'administration, s'il vous plaît, immédiatement dans la salle de conférence pour un mot avec tous les diacres de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée dans la présence du Seigneur. N'oublie pas, mercredi, les cours commencent, une série d'études avec Pasteur Stéphane Langlois. Soyez là mercredi soir, vous allez être bénis.
Enseignement.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.